L'actualité francophone au Canada, début des festivités marquant le 375e anniversaire de Montréal. L'Afrique, la Côte d'Ivoire et les mutineries de soldats qui exigent le paiement de primes. En Belgique, la loi sur les transgenres change. La Suisse, après une sévère vague de gel, beaucoup de dégâts et des producteurs en faillite. En France, la présidence Macron commence, un Premier ministre de droite, un gouvernement et des ministres issus de la gauche, de la droite, du centre et de la société civile. C'est sans précédent. D'abord les personnalités de la semaine, l'Afrique avec Charlotte Hydrac. Charlotte, le portrait de la semaine est collectif, les femmes africaines.
Oui, c'est l'objet d'une étude Ipsos publiée cette semaine, étude de près de 3500 femmes dans 7 pays, Nigeria, Kenya, Ouganda, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Cameroun et Sénégal. Alors plusieurs points marquants, ces femmes sont de plus en plus connectées d'abord, 55% déclarent avoir un accès à Internet. Des femmes qui pèsent de plus en plus dans les choix de la famille, 89% sont décisionnaires ou co-décisionnaires des achats. Des femmes plus citoyennes aussi, 65% déclarent avoir voté aux dernières élections dans leur pays.
En Belgique, Nathalie De Vic, c'est une femme qui a reçu cette semaine les honneurs.
Les honneurs militaires, c'est une première fois qu'une femme prend la tête de la prestigieuse école royale militaire créée en 1834, celle qui forme les futurs officiers de l'armée belge. Il a donc fallu attendre tout ce temps avant que la fonction se féminise. Lutjardis Klaas, 56 ans, général-major d'aviation, 2 étoiles, a été investi commandant, on ne dit pas encore commandante, lors d'une impressionnante cérémonie militaire. Issue de la toute première promotion à intégrer des femmes en 78, elle devient ainsi le 34e commandant de cette institution très virile, un poste réputé à poigne.
La Suisse avec Virginie Mater. La Suisse est une personnalité marquante, un policier qui a tristement marqué les esprits chez vous cette semaine.
Oui, il s'agit d'Olivier Guénia, chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel, une personnalité connue pour son charisme, sa vision et ses interventions régulières dans les médias sur la criminalité. Olivier Guénia a été retrouvé mort à son domicile en début de semaine après s'être suicidé avec son arme de service. Ce docteur en criminologie âgé de 50 ans était devenu un expert dans le domaine des drogues. Il soutenait la légalisation de la production et de la consommation de cannabis dans l'espace privé. Avant tout par pragmatisme, il estimait en effet que le modèle répressif en vigueur était un échec. Olivier Guénia avait aussi acquis une notoriété avec ses analyses, parfois à contre-courant, sur la délinquance des jeunes.
En France, David Pujadas, 52 ans, c'est l'homme de la semaine. Il présente depuis 16 ans le journal télévisé de 20h sur France 2, record de longévité. Eh bien, c'est fini. La patronne de la chaîne, Delphine Ernotte, lui a annoncé mercredi son éviction à la rentrée de septembre. Il faut un renouvellement, une nouvelle incarnation, dit-elle. Son journal rassemble chaque soir environ 5 millions de téléspectateurs. Son style sobre, précis, est apprécié, même s'il est souvent la cible des détracteurs de la collusion entre médias et politique. Son éviction, au moment où un nouveau président de la République entre en fonction, tombe mal et va relancer les soupçons d'interventionnisme du politique dans l'audiovisuel. David Pujadas sera remplacé par Anne-Sophie Lapix. Au Canada, Laurent Thérien, vous avez choisi la chef intérimaire du Parti conservateur, Rona Ambrose. Elle a annoncé cette semaine qu'elle quitte la vie politique.
Oui, prenant un peu la classe politique par surprise, c'est elle qui avait succédé à l'ancien premier ministre Stephen Harper comme chef du parti. Et son passage comme chef semble avoir été apprécié puisqu'on dit qu'elle laisse un parti politique uni, solide financièrement. Elle quittera son poste de chef la semaine prochaine, le 27 mai, date à laquelle la course à la direction du Parti conservateur connaîtra son dénouement. Le député québécois Maxime Bernier est donné favori. S'il remporte la course, il affrontera Justin Trudeau aux prochaines élections.
L'actualité en Afrique, Charlotte Hydrac, une mutinerie de soldats a encore agité la Côte d'Ivoire.
Comme un air de déjà-vu, les militaires mutins sont de nouveau sortis de leurs casernes dans plusieurs villes du pays avec barrages et tirs en l'air. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une annonce d'un représentant des soldats qui déclarait renoncer aux primes promises en début d'année. Pour beaucoup, ça n'est pas passé.
Nous, on n'est pas contents. Nous, on n'est pas au courant. Ce n'est pas notre délégation. L'argent, là, ils n'ont qu'à donner. Le représentant, c'est fini. Les 7 millions là, Il n'est qu'à verser un coup, en même temps, il n'y a pas de discours. Dans trois jours.
Ces mutins, 8400 environ, sont essentiellement d'anciens rebelles intégrés ensuite dans l'armée. En janvier, lors d'une première série de mutineries, ils exigeaient au total 12 millions de francs CFA, un petit peu plus de 18 000 euros. Une partie a été payée, mais ils réclament toujours le reste. Après quatre jours de grogne, le ministre ivoirien de la Défense a finalement annoncé une sortie de crise en début de semaine.
Face à cette situation, en vue d'éviter tout enlisement et plus d'endeuillement de famille, un accord a été trouvé. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations.
Alors, aucun détail sur le volet financier de cet accord, mais les mutins se sont dit satisfaits. Ils ont donc fait plier les autorités. Et la facture est salée pour la Côte d'Ivoire qui fait face à la chute des cours du cacao.
En France, Emmanuel Macron a pris ses fonctions de président de la République dimanche dernier. Premier discours à l'Élysée et un engagement.
Je ne céderai sur rien des engagements pris vis-à-vis des Français. Le travail sera libéré, les entreprises seront soutenues, l'initiative sera encouragée.
Dès lundi, le président a lancé le grand bouleversement de la scène politique française. Il nomme un premier ministre de droite, Édouard Philippe, issu d'un parti, les Républicains, ayant combattu l'élection d'Emmanuel Macron. Paris osé. Le nouveau chef de l'État veut réunir des gens raisonnables, venus de tous les horizons, sorte d'union nationale que l'on retrouve dans la composition du gouvernement annoncé mercredi. 22 ministres de droite, de gauche, du centre, dont la moitié issue de la société civile. Le ministre de l'économie post-essentiel, c'est Bruno Le Maire, figure de la droite, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Il justifie ainsi sa participation à ce gouvernement.
Nous entrons dans une ère politique nouvelle. C'est une ère dans laquelle nous acceptons de mettre de côté les querelles politiciennes inutiles, dans laquelle nous évitons de nous chamailler sur des différences qui n'existent pas.
Pourtant, il y a quelques mois encore, en février, ce même Bruno Le Maire disait à propos d'Emmanuel Macron
« Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. »
Voilà comment des ténors issus de chapelles politiques différentes vont travailler ensemble. C'est le grand mystère du début de la présidence Macron. L'actualité en Belgique, Nathalie De Vic, la loi change pour les personnes transgenres.
Ces personnes qui se sentent hommes dans un corps de femme ou l'inverse et qui veulent officiellement changer de genre, elles représentent, estime-t-on, entre 2 et 3% de la population. Jusqu'à présent, la loi votée il y a 10 ans leur permettait ce changement d'état civil, de sexe, sur leur carte d'identité, mais seulement après accord d'un psychiatre et de lourdes opérations irréversibles, ligature des trompes et hystérectomie pour les femmes, vasectomie pour les hommes, des traitements considérés comme dégradants et contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Désormais, plus question d'imposer ces actes médicaux. Le parcours administratif est assoupli. La députée socialiste Karine Lallieu.
On leur imposait de passer par une réelle stérilisation. Et c'était un psychiatre qui devait dire si la personne pouvait changer de genre ou pas. Ça voulait dire que ces personnes sont des malades, qu'ils ont des problèmes de santé mentale.
Et c'est le principal reproche des associations de terrain. Ce vocabulaire toujours discriminant à l'égard des transgenres. On parle de symptômes, de troubles de l'identité sexuelle. Il faut sortir, disent-elles, de cette logique de maladie mentale. Mais pas si simple, estiment les médecins. Avoir le sentiment de ne pas vivre dans le bon corps peut créer une réelle souffrance et induire des pathologies psychiatriques, dépression, addiction. C'est pourquoi le ministère de la Santé a également décidé de soutenir ces personnes dans leur quête identitaire en remboursant une partie de leurs soins psychosociaux et traitements hormonaux. Les mineurs entre 16 et 18 ans doivent encore obtenir l'accord d'un psychiatre avant de pouvoir changer officiellement de genre.
En Suisse, Virginie Mater, le gel a durement touché de nombreux domaines viticoles du jamais vu depuis 40 ans.
Une vague de gel de printemps a ravagé certains domaines il y a quelques semaines, à tel point qu'aujourd'hui, plusieurs élus fédéraux envisagent des mesures d'aide spéciales. Ils craignent pour la survie de ce secteur économique. La question de faillite d'entreprise agricole se pose. Pour certains encaveurs, il n'y aura carrément pas de millésime 2017. La Suisse compte environ 15 000 hectares de vignes. On en trouve dans des régions très diverses et avec de multiples cépages. Il s'agit d'un secteur économique à part entière, un secteur aujourd'hui fragilisé. Écoutez à ce propos Jean-Denis Perrochet, vigneron en caveur dans le canton de Neuchâtel.
Un problème, c'est les marchés qu'on risque de perdre, parce que des grands cantons viticoles comme le Valais, qui ont une grande partie, qui fournissent une grande partie du vin suisse, de par leur surface, de par leur climat et les rendements qui s'y font, eh bien, si cette partie-là a 20 ou 30% ou 40% en moins, ça va être des marchés qui se perdent, des marchés de bas de gamme comme des marchés de haut de gamme. Donc, ça va être délicat. Et quand on perd une part de marché, eh bien, aujourd'hui, c'est difficile de la récupérer. Attendons peut-être que la fleur passe, qu'on sache effectivement ce qui aura repoussé, ce qui n'aura pas repoussé, mais il faut en parler.
Situation rare et conséquences incertaines. Pour soutenir ce secteur, plusieurs politiciens proposent aujourd'hui d'assouplir les conditions cadres de la viticulture, notamment avec des quotas de production plus flexibles.
Au Canada, Laurent Thérien, l'anniversaire de Montréal. 375 ans, un anniversaire souligné en grand chez vous.
Et oui, contrairement aux grandes villes européennes, Montréal n'a que 375 ans et les Montréalais ont choisi de souligner cet anniversaire pendant tout l'été. Le coup d'envoi de ces festivités a été donné mercredi avec l'illumination du pont Jacques-Cartier, cet immense pont en acier verdâtre au centre-ville. Et à partir de maintenant, tous les soirs, le pont va s'illuminer. Des milliers de combinaisons de couleurs sont possibles et changeront chaque soir selon les saisons ou l'actualité. Le maire de Montréal, Denis Coderre, a dit qu'il souhaitait que le pont soit notre tour Eiffel, la signature de Montréal. Le coût total des célébrations du 375e anniversaire de la ville, environ 1 milliard de dollars. Évidemment, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, ont participé à ces festivités. Écoutons M. Couillard.
On a réussi à bâtir une métropole, mais également une société francophone en Amérique du Nord après 400 ans, qui est encore très vibrante, qui rayonne partout dans le monde. Il y a de quoi être très fier. Je pense que nos fondateurs seraient heureux et fiers de voir ce qui est arrivé ici.
Évidemment, Laurent Thérien, le maire de Montréal, Denis Coderre, espère que les festivités qui entourent ce 375e anniversaire vont attirer un nombre record de touristes.
Oui, Montréal attend plus de 10 millions de touristes cet été et avec 200 événements prévus pour souligner cet anniversaire, les voyageurs ne s'ennuieront pas. Le maire se targue déjà que les hôtels de la ville sont pleins.
C'était l'actualité francophone. À la semaine prochaine.